On est de retour en plateau avec Nicolas Tenzer qui nous a rejoint. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Tenzer, professeur de géostratégie à Sciences Po, auteur de Notre guerre, l'Europe de la défense en ordre de marche. On va aller dans un instant à Bruxelles retrouver Thierry Arnaud où se tenait un nouveau sommet européen. Mais juste avant, la déclaration il y a quelques minutes de Donald Trump. Écoutez.
Il y a quelques minutes, je viens de signer un décret pour augmenter considérablement la production de minéraux et de terres rares. C'est un enjeu important dans ce pays et nous signons aussi des accords avec différents pays pour débloquer ces terres rares. Ces minéraux et beaucoup d'autres choses partout dans le monde, mais en particulier en Ukraine, où l'on s'en sort très bien au vu de la situation entre l'Ukraine et la Russie. Et l'une des choses que nous sommes en train de faire, c'est de signer un accord très rapidement concernant les terres rares avec l'Ukraine, qui a d'énormes ressources dans ce domaine, ce qui est bon pour nous.
Voilà, un accord sur les minerais en Ukraine qui est imminent, mais ça fait pas 3 semaines qu'on nous dit que cet accord est en passe d'être bouclé.
Un petit peu avant la rencontre dans le bureau ovale, cette rencontre explosive, donc oui, cet accord, qui plus est cadre, comme le rappelait Nicolas Tenzer, c'est-à-dire un accord qui devra ensuite être précisé par d'autres accords avant d'entrer en vigueur, eh bien il n'est toujours pas signé, mais demain on reste gratis.
Demain,
Nicolas Tenzer. Je ne sais pas quand, mais surtout, effectivement, la mise en œuvre de cet accord, après, au-delà des accords particuliers auxquels il devra donner lieu, c'est 10 ans, 15 ans. Parce que il faut quand même d'abord qu'on soit en terrain sûr, il faut construire des routes, il faut construire des chemins de fer, il faut prospecter. Enfin, je veux dire, c'est 15, 20 ans. Et je pense que Trump ne sera plus là, probablement le président Zelensky d'ailleurs non plus. Donc on est sur du très long terme.
Et pendant ce temps-là, les Européens se sont réunis, 3e sommet en 6 semaines pour parler du soutien à l'Ukraine et du réarmement de l'Europe, la défense de l'Europe. Thierry Arnaud, on vous retrouve à Bruxelles. Bonsoir, bonsoir Thierry. Les Européens avaient validé sur le principe ce plan à 800 milliards d'euros. Se sont-ils mis d'accord sur les leviers de financement ?
On ne devrait pas tarder à le savoir, Perrine, puisque on nous dit que ce Conseil européen est en train de se terminer ce soir à Bruxelles, donc à un peu plus de 22 heures. On sait que la discussion a porté sur de nombreux sujets techniques et complexes, et notamment sur la question de savoir comment on allait effectivement financer ce soutien massif à l'effort de guerre de l'Ukraine et cette volonté de constituer une force militaire unie et autonome à l'échelle de l'Europe, avec en particulier ce plan de 800 milliards de dollars, en effet, de 800 milliards d'euros, pardon, présenté par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Sur les 800 milliards, il y a 150 milliards à emprunter, en particulier ce qui fait débat au sein des 27. Il y a également la possibilité offerte aux membres de l'Union européenne de sortir du calcul de leur déficit tel qu'analysé par Bruxelles les dépenses de défense. De tout cela, il va falloir décider rapidement. Et il y a une personnalité qui a exprimé des doutes sur le calendrier, en particulier sur cette modalité, c'est Giorgia Meloni, la présidente du Conseil européen. On a fait un accord à 26 sur la défense de l'Ukraine. Comme il y a 15 jours, sans la présence de Viktor Orban pour soutenir ce ton très ferme à l'encontre de Vladimir Poutine et ce soutien très marqué pour Volodymyr Zelensky. Et on continue effectivement de n'être pas totalement en accord sur les modalités de financement. Et encore une fois, ce sont des centaines de milliards d'euros qu'il va falloir trouver pour produire cet effort avec une échéance très rapprochée, puisque l'idée est d'avoir fixé une Europe de la défense puissante et autonome à l'échelle de 2030. Ça veut dire qu'il va falloir aller très vite. L'activité diplomatique va donc rester particulièrement intense ici à Bruxelles, à l'échelle européenne, en Arabie Saoudite, où lundi, une délégation américaine va rencontrer d'un côté les Russes, de l'autre les Ukrainiens. On sait également que Volodymyr Zelensky sera à Paris dans le courant de la semaine prochaine. Et il se dit ici ce soir à Bruxelles qu'à cette occasion, Emmanuel Macron pourrait réunir un nouveau sommet de ce que l'on appelle la coalition des volontaires, britanniques, français et tous les pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine, qui pourraient donc se retrouver jeudi prochain à Paris, en présence du président ukrainien.
Merci beaucoup Thierry Arnaud avec Rémi Soula, Nicolas Tenzer. On voit effectivement que les Européens s'activent, on enchaîne les sommets, on enchaîne les réunions. Il y a un espèce de consensus autour de cette Europe de la défense. Mais quand il faut passer à la mise en pratique, là, on voit bien que ça coince et qu'il y a des divisions qui sont en train de réapparaître au sein des 27.
Oui, bien sûr, il y a des divisions, mais ça n'empêche pas que le chemin est tracé. C'est-à-dire qu'après, on va discuter sur les modalités de financement, on va savoir qui contribue. Il y a des débats également sur à quel point on met ensemble, on mutualise ou on ne mutualise pas, qu'est-ce qui relève de l'Union européenne, qu'est-ce qui relève des États. Il y a des sujets sur les types de financement budgétaire, emprunt, etc. Mais globalement, on a quand même cette voie, à part la Hongrie, bien sûr, hein, vous l'avez rappelé. Bon, mais ça, de toute manière, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu dire, finalement, la Hongrie, elle reste dans l'Union européenne, ce qui d'ailleurs en soi une question, mais de toute manière, on la neutralise. Elle ne nous empêche pas
d'avancer. Autant sur le soutien à l'Ukraine que sur le
réarmement. Et ça, c'est quand même un point fondamental. Et puis derrière, vous avez quand même tout ce que font les États. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez eu la présentation d'un plan français, par exemple, par le ministre de l'Économie et des Finances et par le ministre des Armées, et qui s'ajoute, si vous voulez, d'une certaine manière, à ces 800 milliards.
Alors, qui s'ajoute ou pas? Parce que c'est justement ça la question, et on va en venir à ce plan de financement en France. Il y a ces milliards d'euros à aller chercher, Yves. Et effectivement, les leviers, on n'est pas tous d'accord sur les leviers de financement. Emmanuel Macron, lui, aimerait bien un espèce d'emprunt comme ça avait été fait pendant le Covid. Mais en l'occurrence, l'Autriche, les Pays-Bas, d'autres pays ne sont pas forcément pour. Là, en l'état, si on comprend bien, c'est que l'essentiel de la charge va reposer sur les États membres.
Ben, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que sur les 800 milliards dont il est question, il y en a 150 milliards qui seraient effectivement un emprunt européen éventuellement mutualisé. Mais là, il y a des divisions. C'est là où, par exemple, les Allemands, on retombe sur les États frugaux, vous savez. Les Allemands, les Néerlandais sont plutôt contre. Les Français sont plutôt pour, effectivement. Et puis, vous avez 650 milliards. Mais là, c'est au bon gré de chacun.
Retirer des critères de Maastricht.
Retirer. C'est ça, la grande nouveauté. C'est retirer le pacte de stabilité.
Les contraintes budgétaires.
Vous avez 3% des déficits par rapport au PIB. Ça, on oublie. Mais, après, c'est chaque État qui fait ses dépenses. Il est certain qu'un pays comme la France, si vous voulez, ou l'Allemagne à l'avenir, parce que l'Allemagne est très loin du compte français, vont dépenser, si ça marche, beaucoup plus que des petits pays, proportionnellement.
Ah bah alors, donc, l'Allemagne, on est sur des chiffres qui sont stratosphériques.
Mais oui, mais l'Allemagne 1
milliard en 10 ans, c'est considérable. Alors, chez nous, on parle d'augmenter de 50 milliards le budget de la défense.
L'Allemagne a un retard par rapport à nous qui est gigantesque, pour des raisons historiques, puisque après la guerre, comme vous le savez, elle s'est mise sous le parapluie américain, et en plus, il n'y avait pas d'armée. Et la Bundeswehr, c'était rien. Une petite précision par rapport à la Hongrie. La Hongrie n'est pas contre la défense européenne. La Hongrie est contre le soutien à l'Ukraine militaire. C'est ça qui fait sa différence. Mais de toute manière, la Hongrie, Monsieur Orban, il joue toujours le même jeu. C'est-à-dire qu'il fait de la surenchère vis-à-vis de Bruxelles, il essaye de jouer des entourloupes d'abord, parce que il essaye de faire remonter à chaque fois les enchères pour qu'on lui prenne plus ou qu'on lui donne plus. Voilà, c'est tout.
Et en France, la question du financement de notre défense, de notre réarmement, Christophe, avec cette initiative qui a été lancée par le gouvernement, un fonds d'investissement pour inciter les Français à investir dans notre industrie militaire, c'est quoi? C'est une espèce de placement patriotique, en fait?
Oui, c'est une sorte de livret d'épargne patriotique. Mais c'est un livret d'épargne, c'est-à-dire qu'on place l'argent dans des industries dont on espère qu'elles vont être prospères et que ça nous rapportera. Alors, les taux qui ne sont pas encore connus, qui seront sans doute variables, ne vont pas être aussi intéressants que les meilleurs placements qu'on peut trouver sur le marché. Mais l'idée, ça sera d'avoir une dimension civique. Je mets cet argent pour que mon pays se défende mieux demain qu'aujourd'hui et d'avoir une dimension financière.
Oui, c'est ça. Est-ce que c'est intéressant pour les épargnants?
Bien sûr. Quand on regarde le passé, ça a commencé sous la Révolution française, sous l'an 4, le 19 primaire, il y avait une loi disant, voilà, on va vous emprunter de l'argent. On voulait 60 millions de francs avec les assignats. C'était pas beaucoup à l'époque. Pendant la guerre de 14, on a fait 4 tranches 4. Comme ça. De 1915 jusqu'à octobre 18, 55 milliards de francs. Mais il est intéressant de remarquer que dans notre pays, on a beaucoup plus souvent sollicité l'épargne des Français pour réparer la guerre. Reconstruire en 1818, en 1919, en 1871 pour payer ce que les Prussiens nous demandaient comme dommages de guerre. Donc pour éviter d'avoir à payer les dégâts de la guerre, bah essayons de financer les armements qui vont nous empêcher de connaître la guerre.
Avec ticket d'entrée, Yves, à 500 euros. Je précise juste les modalités de fonctionnement. Oui. Il faudra placer minimum 500 euros.
On est en train, là, de payer non pas les dégâts de la guerre, mais les dégâts d'une politique depuis les années 90, où on s'était dit l'histoire est terminée.
Les dividendes de la paix.
On n'a plus besoin de s'armer, on se désarme même. Puisque, il ne faut pas oublier que dans les années 50, en France, les dépenses militaires, à cause d'ailleurs de la guerre d'Indochine, étaient de 8% du PIB. 8%. Mais
avec un financement américain en matériel et en argent aussi.
Mais alors attendez, parce qu'il faut encore que les Français aient envie de suivre. Il y a Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui a dû dire aujourd'hui, investir dans les armes, c'est pas sale. Parce que c'est vrai que ça peut rebuter quand même un certain nombre de Français. Il va falloir faire aussi tout un travail de pédagogie et aller les convaincre.
Je suis pas
Français.
Sûr que passer par la terminologie de investir dans les armes, c'est pas sale, était la meilleure formule. Parce qu'on peut aussi dire investir dans la défense, investir dans la dissuasion. Ce qui est quand même l'objectif.
Et on investit dans quoi? Parce que précisément, là, si dans demain on met 500. Oui, non, mais d'accord, mais concrètement, cet argent, il va aller où? Il va aller pour financer quoi? Des chars, des équipements?
On a identifié, ce qui s'est passé aussi à Bruxelles, c'est d'avoir identifié aussi des capacités que nous n'avons pas et que nous devons renforcer. C'est notamment le cas de la défense anti-aérienne. Donc oui, ça peut être de démarrer, renforcer ou créer des capacités industrielles dans ce domaine-là. Et ce n'est effectivement pas un moyen pacifique, mais c'est un moyen de défense. Il ne s'agit pas pour le moment de s'armer pour partir en guerre. Il s'agit de s'armer de manière à paraître suffisamment dangereux pour ne pas encourager des attaques. Mais effectivement, c'est un investissement dans une industrie de défense. Ça ne plaira pas à tout le monde.
Après, l'argent dépensé, il suffira pas. Parce que là, l'objectif affiché, c'est 450 millions d'euros.
Oui, il y a 600 milliards d'épargne, donc on devrait pouvoir les trouver. Oui, ça corrige aussi le tir, si j'ose dire, sur deux malentendus. C'est que depuis 15 jours, on nous dit effort de guerre, comme s'il fallait armer des piou-piou pour aller au front. Et puis on nous dit, c'est le modèle social ou une bonne défense. C'est ça aussi que le ministre a voulu corriger.
Merci beaucoup à tous les quatre.